Bon après-midi. Je tiens à remercier le professeur Remer pour l'invitation. Le récit de Genèse 2 à 3 est un des textes les plus étudiés et commentés de la Bible hébraïque. Néanmoins, plusieurs questions restent ouvertes encore aujourd'hui. Une de ces questions concerne l'unité du récit. Est-ce qu'il s'agit d'un récit unifié ou est-ce qu'on peut discerner plusieurs strates? D'autres questions sont liées au motif de la consommation du fruit défendu. Les chercheurs d'aujourd'hui sont d'accord sur le fait qu'il faudrait comprendre cet acte de transgression dans un sens métaphorique. Mais dans quel sens exactement? Un consensus parmi les différentes interprétation du récit de Genèse 2 à 3 consiste dans l'idée qu'il est lié à d'autres récits se trouvant dans l'histoire des origines. Il s'agit, entre autres, du récit de Caïn et Abel, d'une couche du récit du déluge, du récit de la tour de Babel. Beaucoup de chercheurs attribuent ces récits à une narration majeur nommé Yahvist, abrévié par le sigle J, parce que Dieu est presque toujours désigné par le nom Yahvé. Cette œuvre du Yahvist forme une des trois, voire quatre sources du Pentateuque présupposées par beaucoup de chercheurs encore aujourd'hui. Selon Gerhard von Rad et d'autres, le Yahvist aurait composé l'œuvre dans l'époque de Salomon. Aujourd'hui, cette datation est généralement abandonnée. Des travaux importants essayent de démontrer que Shi est une œuvre beaucoup plus récente, composée dans l'époque post-exilique. Par exemple, Van Zetters, Rose, Levin. Un important nombre de chercheurs vont plus loin en abandonnant l'hypothèse d'une narration yahviste. Néanmoins, ces chercheurs opposés à la théorie de J sont d'accord sur le fait que les récits mentionnés en haut sont liés l'un à l'autre et forment une strate plus ou moins homogène. Au lieu de J, il s'appelle cette couche non P et l'oppose ainsi à la couche P, le document sacerdotal. En effet, le récit de Genèse 2 à 3 a d'importants points communs avec les récits J, non P, qui suivent. Il s'agit avant tout du motif de la transgression commise par les hommes et la contre-démarche de Dieu. Alors, on a ce motif dans tous ces récits énumérés ici. Genèse 2 à 3, Genèse 4, le récit de Caïn et Abel, Genèse 4, 1 à 4, les mariages entre les anges et les femmes, le début du récit du déluge, après le récit qui a été mentionné ce matin, le regard de Ham sur son père nu, Noé, et finalement le récit de la construction de la tour de Babel. En rapportant ces motifs, les récits révèlent une théologie très similaire. La perception de l'homme est négative et quant à Yahvé, il est discerné comme un dieu sévère, un dieu de châtiment qui souvent sanctionne les transgressions de l'homme. Les récits sont ainsi marqués par une forte opposition entre Dieu et homme. Cependant, malgré ces points communs importants, à mon avis, il y a des indices en faveur du fait que le récit de Genèse 2 à 3, originellement, n'était pas conçu en tant que partie de cette narration plus large et n'a pas été marqué par la théologie mentionnée ci-dessus. Ces indices concernent l'histoire du texte d'un part, et le motif central de la transgression d'autre part. Dans ce colloque, je vais présenter des réflexions relatives à tout cela et aboutir à des suggestions concernant l'unité de la composition de Genèse 2 à 3 et le motif de la transgression décrite dans ce récit. D'abord à l'histoire du texte. Une particularité frappante du récit de Genèse 2 à 3 consiste dans la désignation de Dieu comme Yahvé Elohim. Ce double nom n'apparaît jamais plus dans les textes J. Là, Dieu est toujours appelé simplement Yahvé. Et ailleurs seulement très sporadiquement, par exemple dans les livres des chroniques, et, c'est important, ne jamais plusieurs fois dans un seul récit. Alors, le récit de Genèse 2 à 3 est vraiment très, très unique à cet égard. En ce qui concerne la consistance de l'emploi de double nom en Genèse 2 à 3, on discerne différents degrés parmi les versions de texte. Le texte masorétique, et avec lui le Samaritanus, est beaucoup plus consistant que la Septante. Ici, le double nom est toujours utilisé, à l'exception du passage avec le dialogue entre le serpent et la femme, où l'expression simple Dieu, Elohim, est choisie. Selon les commentateurs, cette exception serait délibérée. Dans la bouche du serpent et également dans une parole adressée à lui, le nom saint Yahvé ne serait pas adéquat. Dans la Septante, par contre, il y a beaucoup d'autres endroits où la divinité est nommée uniquement Hotheos, Elohim. Alors, à part de ce passage du dialogue du serpent avec la femme. Comment peut-on expliquer cette différence entre les témoins textuels? Cette question n'est guère examinée dans les commentaires. Les quelques auteurs qui la traitent préfèrent majoritairement le texte masorétique. Ils croient que la Septante, ou bien son modèle hébreu, omet le tétragramme à plusieurs endroits pour éviter la redondance. Il suppose également que la Septante veut harmoniser avec l'emploi du terme Dieu, Elohim, en Genèse 1. Là, c'est toujours, la désignation est toujours Elohim. Le texte masorétique serait donc plus ancien, selon ces chercheurs. Deuxième opinion, selon une position très minoritaire, c'est un auteur hollandais qui a centaines d'années, Hertmans, la Septante est plus ancienne. Un rédacteur du texte masorétique ajoute le tétragramme à chaque endroit où il y a seulement Elohim afin de rendre son texte consistant. Je tendrai à favoriser la deuxième explication pour la raison suivante. Il est plus probable qu'un scribe ou rédacteur ajoute le tétragramme qu'un interpolateur omette le nom sacré de Dieu, Yahvé. Aussi, l'argument concernant la redondance n'est pas convaincant, à mon avis. Parfois, le nom Kurios Hotheos, dans la Septante, se trouve plusieurs fois dans un petit passage. Par exemple, il est utilisé trois fois dans les deux versets très courts du chapitre 3, versets 8 à 9. Bien évident, ce jugement prima facie est encore à confirmer par une investigation globale de toutes les données du livre de la Genèse. Dans cet cadre ici, je dois me restreindre à quelques observations générales. Dans plusieurs textes, la Septante et le texte masorétique sont conformes en ce qui concerne la désignation de Dieu. Par exemple, C'est le cas dans pour les récits Genèse 1, Genèse 11 et Genèse 19. Dans certains récits, on constate que, tandis que le texte masorétique a constamment le tétragramme, Yahvé, la Septante a quelques occurrences de Kurios, l'équivalent de Yahvé, mais aussi quelques occurrences de Théos, Dieu, l'équivalent de Elohim. Alors, Genèse 2 à 3, 4, 13, 14, 18. Ce sont des exemples pour ce cas. Une première conclusion, donc, est la suivante. La situation est différente selon les récits. Et ça, c'est important, à mon avis. Car ceci montre que les déviances de la Septante ne sont pas dues au traducteur, car si celui-ci avait eu l'idée de modifier le nom de Dieu, il aurait été beaucoup plus systématique. Les déviances remontent donc au modèle hébraïque, hébreu. Ce modèle semble être un assemblage de récits avec différents emplois de désignation de Dieu. Les données du livre de la Genèse ne contredisent donc pas la conclusion tirée en amont concernant le récit de Genèse 2 à 3. Beaucoup de chercheurs, tous suivant le texte masorétique, estiment que le double nom Yahvé Elohim est l'invention de l'auteur du récit lui-même. Alors je parle de nouveau du récit Genèse 2 à 3. Selon eux, par l'emploi du double terme, ce dernier, alors l'auteur, aurait voulu faire une transition entre le texte de Genèse 1, qui utilise uniquement Elohim, Dieu, et le récit de Genèse 4, qui a Yahvé, dans le texte masorétique. D'autres chercheurs, suivant eux aussi le texte masorétique, pensent que le nom était originellement uniquement Yahvé et que c'était un rédacteur qui aurait ajouté Elohim afin d'harmoniser avec le récit de Genèse 1. Cependant, ces propositions ne prennent pas en compte la désignation de Dieu dans la Septante. Le fait que le nom Elohim est prédominant ici et que le double nom n'est utilisé que sporadiquement. De plus, dans le récit qui suit, Genèse 4, la désignation de Dieu est, contrairement au texte masorétique, le plus souvent Elohim, seulement une fois Yahvé, deux fois Yahvé Elohim, alors pour le modèle reconstruit de la Septante. Si on prend la tradition de la Septante comme point de départ de l'analyse diachronique, on arrive plutôt à la conclusion que le nom originel était Elohim, dans le récit de Genèse 2 à 3, était originellement Elohim, et que dans l'histoire de la formation du récit, le nom de Yahvé aurait été successivement ajouté, d'abord dans la tradition hébraïque, reflété par la Septante, et après, d'une façon plus systématique, dans le texte masorétique. On peut d'ailleurs ajouter que le nom Elohim convient tout à fait comme désignation du Dieu créateur, peut-être mieux que le nom Yahvé, qui est le nom du Dieu national. Israël. Une telle conclusion qui me paraît suggestive devra encore être confirmée par une investigation textuelle plus détaillée et couvrant l'entier livre de la Genèse. Si elle s'avérait, elle aurait d'importantes implications car la théorie du soi-disant yahviste serait mise en question aussi de ce côté-là, du côté de l'histoire du texte. Un deuxième indice en faveur du fait que le récit de Genèse 2 à 3 originellement a été indépendant des récits attribués à J consiste dans la tendance théologique de ce récit. Alors j'abandonne maintenant l'histoire du texte. Consiste dans la tendance théologique de ce récit, avant tout dans la conception de la transgression de l'homme et les contre-démarches de Dieu. Ici, ce motif est beaucoup plus complexe que dans les autres récits. La transgression du premier couple n'apparaît pas comme une action négative de toute évidence, comme dans les autres récits yahvistes. On discerne au contraire également des aspects positifs. D'abord, on constate qu'il y a, à part Dieu, une autre instance savante, et bien qu'il s'agisse d'un animal surnaturel, le serpent. Et lui offre un autre point de vue que celui de Dieu. Selon lui, la transgression de la loi de Dieu est bonne, il la recommande. À la fin du récit, on ne sait pas qui a raison. Dieu, qui décrète le tabou et prescrit certaines conséquences pour le cas de sa transgression, ou le serpent qui suggère justement cette transgression en pronostiquant toute autre conséquence. Sur deux points, le serpent semble avoir raison. Premièrement, contrairement à la prédiction de Dieu, l'homme ne meurt pas le jour où il mange le fruit interdit. Et deuxièmement, tout comme le serpent le prédit, l'homme, en transgressant le tabou, devient comme Dieu, un fait qui est avoué par Dieu lui-même à la fin du récit. Alors oui, ça, je passe. Alors les trois endroits. D'abord les versets 16 à 17, Dieu ordonne le tabou, la conséquence de la transgression, la mort immédiate. Là, c'est important, l'adverbe « le jour »,« bayom », qui est un indice que l'auteur pense à une conséquence immédiate. Traditionnellement, on a pensé que cette prédication de Dieu vise la perte de l'immortalité de l'homme. Mais, comme je dis, cet adverbe temporel, le jour, et aussi la phrase mot tamut, qui est très proche de la sentence juridique qu'on a vue tout à l'heure, mot yumat, dans l'exposé de Christophe, qui est alors très proche de cette sentence juridique de la peine de mort. Ça aussi favorise une interprétation vers une mort immédiate comme conséquence. Alors, et après, ça ne fonctionne plus. Yeah, le monsieur, ça bouge plus. D'accord. Oui. Alors, je peux pas montrer les autres textes, mais finalement, c'est important est que à la fin, Dieu reconnaît que l'homme est devenu comme nous, comme il dit. Alors, cela indique que finalement, c'est le serpent qui semble avoir raison. Dans le contexte de cette question, il est également à noter que les Alors, je continue, sinon. Oui. Dans le contexte de cette question, il est également à noter que le serpent est présenté de manière positive.
Merci beaucoup.
Alors, ça marche, ok. Mais je continue maintenant, c'est pour gagner du temps. Alors, c'est important que le serpent est présenté de manière positive. Il est intelligent, en hébreu, Arum. La connotation de cette expression est toujours bonne dans la Bible hébraïque. À mon avis, la traduction commune, rusé, un terme avec un sens un peu ambigu, n'est pas fausse, mais je préférerais intelligent. En dehors de notre récit, le mot Arum, justement, est toujours rendu intelligent. Une fois, dans les livres de Samuel, aussi parfois par rusé, mais aussi là, on pourrait traduire avec intelligent. À mon sens, cette traduction rusée est due à une interprétation chrétienne très répandue qui voit dans le serpent un être méchant, voire l'incarnation du diable. En ce qui concerne le don de la clairvoyance, de la prédiction, le serpent se révèle comme instance de plein pied avec Dieu. En même temps, nous apercevons que Elohim n'est pas un souverain omnipotent comme dans les autres récits soi-disant yahvistes. Il y a donc des indices pour que la transgression décrite en Genèse 2 à 3 ait des aspects positifs. Cependant, il est vrai qu'on y trouve aussi une qualification fortement négative de la transgression du premier couple. Selon le passage chapitre 3, versets 8 à 17, Yahvé Elohim sanctionne la transgression et il punit à la file le serpent, la femme et l'homme. Dans ce passage, on retrouve également le motif de la malédiction. Yahvé Elohim maudit le serpent et la terre arable. Des chercheurs comme Weipert, Schmidt, Westermann argue que ce passage comprenant les sanctions forme un élément secondaire, car les punitions prononcées ici n'ont aucun rapport avec la sanction prévue par Dieu pour le cas de la transgression, peine capitale, la mise à mort. En plus, il raisonne que la sanction de Dieu mentionnée à la fin du récit, à savoir l'expulsion de l'homme du jardin, la mise en place des chérubins devant l'arbre de la vie, conviendrait mieux au passage de la prescription de Dieu. Maintenant, il y a une observation qui pourrait corroborer cette hypothèse. Elle concerne la répartition du nom Yahvé Elohim à côté de Elohim, dans la Septante. Comme je viens de l'indiquer, ce nom est beaucoup moins utilisé dans la Septante que dans le texte massorétique. Le nom est utilisé au début de quasiment chaque passage et à quelques endroits importants. Oui, et à quelques endroits importants. Dans un seul passage, la désignation est utilisée d'une manière consistante. C'est justement ce passage, chapitre 3, versets 8 à 17. Là, on trouve une forte concentration. Si vous passez sur ce tableau, alors c'est toujours ou presque toujours au début de chaque passage, on a... Yahvé Elohim, là, il y a une faute. Ah. Désolé. Euh, Oui, au début, alors il y a aussi des manuscrits qui ont Yahweh Elohim ou Kyrios Hotheos. Ça, c'est, il y a un autre endroit où, c'est, selon manuscrit, c'est, la situation est différente. Alors, je ne veux rien précipiter avec ce tableau qui est un peu, disons, ne montre pas tous les détails. Mais à part du début de chaque passage où on a Yahvé Elohim, c'est Elohim. À l'exception de ce passage 8 à 17 où on a cinq fois Yahvé Elohim. Alors, à mon avis, la concentration des occurrences du nom Yahvé Elohim dans ce passage n'est guère accidentelle. La question est de savoir pour quelles raisons l'auteur n'utilise le double nom d'une manière constante que dans cette section. Une explication possible est la suivante. Le passage concerné a été composé par le même rédacteur qui a interpolé ajouter le nom Yahvé. Cet auteur, interpolateur, aurait voulu à la fois introduire le nom de Yahvé dans le récit et, en insérant tout un passage, l'adapter, ce récit, à certains récits ou passages yahvistes. Cette explication du problème textuel irait de pair avec l'hypothèse de l'analyse littéraire diachronique qui sépare du récit originel les versets de l'interrogatoire et de la condamnation du couple et du serpent. Alors, si cette analyse littéraire était correct. Alors, qu'est-ce qu'il serait le sens de ce récit primitif? Selon le passage de l'interrogatoire et des sanctions pour le serpent, la femme et l'homme, la transgression n'a plus l'air d'un péché, mais a des traits positifs. Et on peut se demander s'il représente pour l'auteur une option légitime, voire préférable. Une telle optique serait comparable à d'autres mythes du Proche-Orient ancien. Dans le mythe d'Atapa et le vent du Sud, le lecteur apprend à la fin que la transgression de l'interdiction du dieu Ea de manger des mets célestes aurait été le meilleur choix. Le protagoniste Atapa aurait gagné la vie éternelle. On trouve le motif d'une transgression semblable également dans le sixième tableau de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh et son compagnon Enkidu envahissent la forêt des cèdres, qui est appelée la demeure des dieux. Ils tuent le gardien Umbaba et puis coupent les arbres sacrés. Ici, une parenté forte avec le récit de Genèse 2 à 3 consiste dans le motif des arbres défendus d'Abouizer. Tandis que dans Gilgamesh, l'ensemble des cèdres apparemment sont défendus, dans le récit de Genèse 2 à 3, ce sont seulement deux arbres. Shlomo Yisrael interprète l'intrigue du mythe d'Adapa et le vent du sud comme initiation. Cela me paraît une catégorie d'interprétation appropriée pour le genre de mythe d'Atapa, mais aussi pour Gilgamesh et pour le récit de Genèse 2 à 3. Sur son chemin, le protagoniste Atapa, Gilgamesh, le premier couple, apprend, entre autres, à transgresser un tabou et à négliger l'interdiction divine pour acquérir un certain bien, sagesse, capacité de jugement, vie éternelle. Dans chacun de ces mythes, le candidat est inspiré et encouragé par une instance savante, que ce soit un dieu, Anu, Shamash, ou un animal surnaturel, le serpent. En ce qui concerne le récit de Genèse 2 à 3, le parcours initiatique ne semble pas être terminé à la fin. Il reste un arbre, l'arbre de la vie, duquel l'homme ne s'est pas encore approché pour s'en servir. Cet arbre est hypercarté par les chérubins et l'épée foudroyante. Est-ce que l'homme trouvera des moyens pour y accéder et s'y saisir son fruit ? Vu que l'homme a déjà une fois été couronné de succès, une telle évolution de l'intrigue ne paraît pas invraisemblable. Cette interprétation peut-être surprend les uns et les autres parmi vous. Pour Gilgamesh et aussi Adapa, beaucoup d'interprétateurs soulignent la mortalité en tant que destin irréversible pour l'homme. Cependant, il faut rappeler que dans l'Adapa, selon le fragment D, le protagoniste justement acquiert la vie éternelle. J'arrive au résumé. Parmi les études de Genèse 2 à 3, les interprétations de la transgression en tant que péché originel et prise de distance fatale de Dieu par l'homme sont prédominantes, même dans les ouvrages assez récents. À mon avis, cette forte tendance d'interprétation est due au passage chapitre 3, versets 8 à 17, qui condamne les actions du serpent, de la femme et de l'homme. Cependant, si on considère les versets concernés comme un développement secondaire du récit, une estimation qui peut s'appuyer sur quelques problèmes de cohérence, ainsi que certaines données du texte de la Septante, il est possible de gagner un nouveau regard sur ce récit. Une interprétation moralisante ne s'impose plus. Comme les mythes d'Adapa et de Gilgamesh, il semble possible de comprendre l'intrigue comme une initiation. Merci pour votre attention.